Peut-être la paix ne soit pas qu'une dérive.
Face aux conditions difficiles de la vie ou pour revendiquer leurs droits, certains groupes individus recourent à la grève. C'est le cas des enseignants qui, tout au long de l'année scolaire qui s'achève, ont observé des grèves à répétition pour l'application effective du barème de Moody. Le mouvement des grèves a été aussi observé chez les professeurs d'université, les médecins et les infirmiers. Mais dans quelle mesure la grève peut-elle constituer un moyen pacifique pour la résolution des conflits? Réponse avec Madame Espérance Baedila, docteur en communication, dans quelques instants, mais d'abord suivons le reportage de Derry Luchak.
La grève est un droit garanti par la constitution de notre pays. Elle intervient très souvent suite à un échec du dialogue social entre le patronat et la classe ouvrière. Mais comment alors les employés arrivent-ils à déclencher le mouvement de grève?
La grève est un droit garanti à toute association des citoyens congolais qui estiment que leurs droits sont suffisamment garantis. C'est ainsi que chaque fois que nous estimons que nous avons droit à quelque chose qui n'a pas été accompli par les pouvoirs gestionnaires de la République, c'est-à-dire l'espace du gouvernement, les magistrats s'adressent à l'autorité concernée.
C'est l'arme ultime. On en arrive à la grève lorsque tous les moyens pacifiques sont épuisés par rapport au dialogue social. Ici, je cite la concertation ou la négociation entre les syndicats et les patrons ou l'employeur. Donc, c'est l'échec, n'est-ce pas, du dialogue social qui nous permet d'arriver à la grève parce que le dialogue social permet d'échapper à la grève ou d'éviter la grève.
La grève ou arrêt de travail n'est pas faite pour le plaisir, affirment certains syndicalistes. Dans les milieux du travail, il y a plusieurs problèmes liés généralement à la rémunération, lesquels peuvent trouver solution dans la négociation. Malheureusement, cela n'est toujours pas le cas dans notre pays. Et très souvent, le patronat est insensible à ces problèmes.
La grève n'est pas faite pour la grève. Il y a une raison qui pousse les gens à faire la grève. En ce qui nous concerne pour l'instant, à la santé, nous avons demandé à ce que, comme on l'a fait avec nos collègues du ministère de l'EPSP, c'est à peu près de 80% du personnel qui est NU. Et ce personnel-là, c'est depuis le mois d'avril 2005 qu'il a été suspendu de salaire, il n'est plus payé. Et toute demande à ce que ces gens-là soient payés bute toujours à la résistance de la part du gouvernement. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous disons, nous avons déjà demandé à ce qu'ils soient payés, cela n'a pas donné satisfaction. Nous interpellons le gouvernement, nous avons lancé un préavis de grève le 4 juin pour demander à ce que les amis NU puissent être programmés pour la paix du mois de juin. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse positive.
La grève est un mouvement pacifique, si bien qu'il peut y avoir des agitations et des dérapages. Il faut dire cependant que les grévistes n'aiment pas aller en grève, mais quand ils décident, le corps syndical est souvent tiraillé entre les employés et l'employeur.
D'ailleurs, avec la grève, on ne prend pas des armes. C'est-à-dire, nous utilisons les moyens de travail dont nous disposons pour pouvoir revendiquer et obtenir la satisfaction. Ce sont les conséquences néfastes de la grève qui poussent pratiquement l'employeur à dire « autant ne pas aller jusque-là ».
Le mouvement de grève peut être pacifique comme il peut être tumultueux. Ça dépend de la filière qui peuvent déborder. Généralement, nous ne sommes pacifiques. C'est vraiment quand ça ne va pas qu'on peut s'agiter, mais généralement, nous ne sommes jamais agités.
Nous sommes convaincus que nous n'avons jamais été contents de faire une grève parce que pendant la grève, on sentait l'incompréhension des camarades travailleurs. On a les patrons sur les dos dans le secteur privé. On a aussi l'État derrière qui dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour répondre aux revendications qui sont généralement salariales dans les cas de notre pays.
Le plus grand souhait est que les employeurs situé au niveau privé du patronat et au niveau public de l'État, puissent bien respecter le cahier des charges que leur proposent les agents afin d'éviter des frustrations ou toute autre forme de conflit.
Voilà, merci Béry Fontaine, le Tchaka, pour ce reportage. Nous avons dans ce studio Madame Espérance Baïdila, docteur en communication. Madame, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors, pourquoi les enseignants ont-ils grévé alors qu'ils venaient de passer des décennies sans amélioration des salaires?
Mais je dois dire que les enseignants ont décidé d'aller en grève parce que l'État avait donné une promesse qu'il n'a pas honorée. En effet, l'État avait signé, vous vous souvenez, un Mboudi, en accord avec des syndicats de l'enseignant primaire, secondaire et universitaire, mais aussi d'autres fonctionnaires, d'autres ministères. Et cet accord faisait état de la amélioration des conditions salariales des fonctionnaires. Les deux parties avaient fixé des barèmes, conditions salariales des fonctionnaires, qui devraient être payées par palier. Mais quand l'État n'a pas respecté, en fait, les clauses du contrat, les enseignants ont vu qu'ils devraient aller à la grève parce que les conditions de vie devenaient de plus en plus difficiles, intenables.
Alors, pourquoi ont-ils accepté de reprendre les cours sans que leur situation salariale se soit améliorée?
Il y a d'abord d'une part la volonté du gouvernement de vouloir donner de l'espoir aux enseignants. C'est en fait également une manière de manipuler les gens, il faut le dire. L'État a donné, a redonné de l'espoir aux enseignants et fonctionnaires de l'État qui pendant des décennies touchaient un salaire très maigre. Avec l'accord de Moody, c'était en fait une manière de redonner de l'espoir aux enseignants. Mais les enseignants ont repris les cours parce qu'ils se disaient, ben ça va marcher. Et pendant qu'ils étaient en grève, ils avaient accepté de reprendre les cours. Les négociations se faisaient avec au niveau des syndicats. Donc ce sont des choses qui se faisaient dans les coulisses pendant que les autres membres de la communauté, en fait, enseignants ou des fonctionnaires, revendiquaient leurs droits. Donc il y a eu quelque part de l'espoir au niveau du gouvernement pour vouloir, en fait, faire un pas dans les négociations. Et c'est ce qui a fait que les enseignants reprennent les cours. Mais aussi, il faut pas oublier que les enseignants font partie de la société. Ils sont parents. Ils ont des enfants qui étudient quelque part. Et souvent, ils disent, mais nos enfants étudient dans notre pays si nous mettons tout de côté.
Et comme tout à fait cas, il doit répondre à certaines
contraintes. Absolument, à certaines contraintes sociales. Ils sont en même temps parents, c'est quand même une situation qui est compliquée. Ils sont en même temps parents, ils ont des enfants, mais ils sont enseignants pour enseigner les enfants des autres qui sont à l'avenir de demain. Mais ils ont des besoins qui doivent absolument être satisfaits en tant que personnes humaines, donc ils ont des droits qui doivent être respectés.
Alors pourquoi ont-ils attendu la rentrée des classes pour durcir leur grève?
Dans les mouvements de grève, il y a toujours des moments qui sont très importants où les populations qui revendiquent choisissent en fait ces moments-là pour faire entendre leur voix. Donc en fait, ce sont des moments qui sont, on se dit, qu'on fait par exemple en ce qui concerne les enseignants, que pendant la rentrée des classes, si on ne commence pas les cours, en fait, c'est toute la société qui sera paralysée. Les transporteurs, par exemple, des transports publics vont le remarquer parce qu'il n'y aura pas des enfants dans la rue, les enseignants ne seront pas là. Et puis, les enfants viennent de passer 2 mois à la maison, ils attendent d'aller à l'école parce que c'est ça leur travail. Alors, quand ils doivent encore rester à la maison, donc il y aura même dans les maisons des revendications qui seront faites. Donc, c'est un problème qui sera connu de tout le monde. Et je crois que à la rentrée des classes, c'est le moment indiqué pour les enseignants pour que leur voix soit entendue par rapport aux revendications.
Oui, en manifestant, les grévistes sont-ils convaincus qu'un changement pourrait intervenir dans leur mode de vie?
Absolument, parce qu'en fait, le droit de s'exprimer, c'est un droit qui est reconnu dans la Constitution, qui est reconnu dans le clause des travailleurs, c'est reconnu. Les enseignants, ou comme tout autre fonctionnaire, ou toute population, doit s'exprimer. Et quand la grève, c'est en fait un moyen de revendiquer, et c'est un moyen, normalement, qui est non violente, un moyen non violent pour essayer de manifester, en fait, exprimer ce que l'on désire. Donc cela est reconnu. Et les gens, en faisant des grèves, sont convaincus qu'ils seront entendus ou des négociations vont commencer à avoir lieu pour que leur situation soit prise en compte.
Est-ce que la grève dans notre pays est organisée dans les normes?
Généralement, les gens qui organisent les grèves dans notre pays le font dans les normes. Parce que avant d'aller en grève, il y a toujours des négociations. Il y a des voix qui se font entendre vis-à-vis de l'employeur, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'école, de l'institution, en fait. On commence toujours par remuer. Les employeurs le savent. Et finalement, les syndicats, généralement, les gens sont organisés en syndicats. Ils donnent des ultimatums. Ils disent, à partir de telle date, quand nos revendications ne sont pas prises en compte, voilà, nous allons faire ceci, nous allons aller en grève, nous allons faire ceci. C'est en fait un moyen de pousser les employeurs de négocier avec l'autre partie, donc la population employée, de négocier pour trouver la solution. Et généralement, c'est organisé, mais il y a un problème. C'est qu'en fait, ceux qui organisent les grèves doivent absolument le faire. Il faut se former même pour l'organisation des grèves. Les syndicats, on ne prend pas comme syndicaliste n'importe qui. Ce sont des gens qui doivent savoir négocier et qui ont une logique et quelque part qui doivent être des téméraires parce qu'ils savent en fait, ils sont en avant-plan et ils savent ce qu'ils revendiquent. C'est eux qui représentent en fait toute la population des employés. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas, comme je dis, être des n'importe, pas des terreux parce qu'ils savent. Et ce sont des gens qu'on ne peut pas manipuler facilement, qu'on ne peut pas corrompre facilement. Alors, quand ce sont ce genre de personnes, ils sauront comment organiser les choses pour en fait faire en sorte que tout le monde puisse soutenir le mouvement et être, comment dirais-je, persévérant dans ce qu'on est en train de faire pour que cela réussisse. Quelque part, les gens pensent que ça peut réussir parce que c'est une action qui quand même fait peur à l'employeur.
Mais juste une parenthèse que j'ouvre rapidement. Qu'est-ce qui fait que dans d'autres entreprises ou dans d'autres organisations, il y a des grèves à répétition? Il y a comme un cycle de grèves.
Absolument. Dans notre pays, on le voit souvent. C'est parce que justement, comme j'ai dit, en fait, le droit à l'expression, c'est une culture, mais également les droits à l'écoute. Il faut absolument que l'employeur sache écouter les revendications des employés. Mais quand il y a des grèves à répétition, c'est que quelque part, les employés ne sont pas entendus. Ils font des grèves, mais cela n'est pas entendu par l'autre partie qui est constituée en fait de l'employeur. En fait. L'employeur ne tombe pas l'oreille attentive aux revendications des populations. Et puis en fait, les gens ont peur parfois de perdre leur travail, parce que le travail est précaire, on a un problème pour caser les gens, on a peur. Alors on se dit, bon, on rentre quand même, mais entre-temps, les négociations doivent continuer. Mais si quelque part l'employeur sent que les employés sont affaiblis dans leurs revendications, ben lui également, il durcit le temps. Donc c'est un problème de rapport de force toujours dans les mouvements de grève. Il faut alors savoir très bien constituer cette partie-là des grévistes pour que les revendications puissent arriver en fait.
Si je comprends bien, donc l'insensibilité de l'employeur peut entraîner également des violences.
Absolument, ça peut entraîner un cycle de violence. Parce que vous savez, les autorités également utilisent la violence quand ils voient, parce qu'ils veulent masser par exemple une grève ou un mouvement du côté des employeurs, ils utilisent la force, et l'usage de la force par le pouvoir public, par exemple, parce que nous parlons des enseignants tout à l'heure, à l'endroit des grévistes, est une façon de leur faire peur afin qu'ils cessent de revendiquer. Et une telle approche, en fait, ne résout pas le problème, car les besoins demeurent. Alors que moi, je me dis, on peut, pendant qu'on est en train de négocier, même si les gens sont en grève, il faut que le travail des coulisses est très important. Donc, il faut que ce qui se fait en coulisses se fasse effectivement. On ne peut pas négocier avec la foule. Une foule qui est en grève, on ne négocie pas. Mais les foules ont des leaders. Et ce sont les syndicalistes, par exemple, qui peuvent parler avec la foule ou les employés. Et en même temps, les syndicalistes parlent avec les employeurs. Et en fait, c'est un mouvement qui se fait, qui est cyclique, en fait. Ce n'est pas linéaire. Et pendant qu'ils sont en train de parler avec les grévistes, en même temps, ils négocient avec les employeurs. Et il faut que ça soit des bons négociateurs. Et tout cela s'apprend.
Alors, qu'est-ce qui fait que la grève ou la revendication de la grève tourne autour de la rémunération? C'est toujours autour du salaire.
Oui, parce que, en fait, nous sommes dans un pays ou dans beaucoup de pays d'Afrique, même en France, vous suivez plusieurs fois, par exemple, la RFI faire la grève à RFI, on suit ça en France, dans beaucoup de pays. Mais chez nous, particulièrement en Afrique, vous savez, les gens ne sont pas bien payés. Les salaires sont trop maigres. Et la situation, le train de la vie change presque tous les jours. Maintenant, par exemple, il y a cette crise de pétrole qui est dit partout dans le monde. Mais dans d'autres pays, il y a en fait également l'enveloppe salariale qui suit le mouvement. Alors que chez nous, par exemple, ça ne se fait pas. Tout augmente de prix, l'enveloppe salariale ne suit pas. Alors les personnels arrivent à une situation où il est incapable de résoudre les problèmes de tous les jours, ce qui s'oppose à eux en tant que personnes humaines. Les droits les plus élémentaires, manger, se nourrir, envoyer les enfants à l'école, se faire soigner, ce sont les droits les plus élémentaires, ça n'arrive pas. Alors vous allez voir que les gens sont très mal à l'aise dans leur peau en tant que responsables des familles, mais en tant que personnes travaillant, parce que le travail c'est un trésor. L'homme est honoré par son travail, l'homme est honoré par le fruit de son travail. Alors il faudra absolument, on va se sentir lésé dans ses droits les plus élémentaires, et c'est ce qui cause des grèves. Donc normalement, l'employeur devrait déjà agir en aval, en avant, anticiper les choses pour savoir que voilà, il y a tel chose. Parce que lui le sent, en tant que personne humaine, il le sent, il le sait, il est mieux informé que les employés. Donc il doit en fait prévenir les situations, agir en avant pour essayer de calmer tant soit peu la situation. Déjà, on peut augmenter légèrement les salaires quand la population employée sent que du côté de l'employeur, il y a en fait cette volonté de pouvoir bien faire. Je crois que ces choses n'arriveront pas.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer chez les grévistes au cas où leurs revendications ne trouvent pas de solution?
Souvent, quand les mouvements de grève ne trouvent pas de solution, vous savez, même du côté des grévistes, en tant que personne humaine, on se sent lésé. C'est comme un enfant qui veut revendiquer quelque chose, qui a un besoin et qui veut l'exprimer auprès de ses parents. Quand les parents n'entendent pas, ne tendent pas l'oreille pour écouter, on se sent frustré. On perd en fait quelque chose dans sa personnalité. C'est très grave. Moi, je pense qu'il faut absolument que le pouvoir public ou la partie employeur doit absolument écouter les revendications. Même si on n'a pas toujours les moyens de satisfaire ces revendications-là, on doit les écouter. Parce que la manière d'écouter, c'est également un début de solution. Il faut savoir écouter, il faut également montrer cette volonté. Vous savez ce qui arrive, pourquoi souvent ces choses arrivent? Parce qu'il y a, ce sont des questions également qui sont liées au problème d'injustice, de droits de l'homme. Nous sommes par exemple dans un pays où les salaires sont très très différents. Très différent. Vous avez des gens qui gagnent en termes de dollars 7 000 dollars, alors que nous travaillons dans un même pays, nous avons un même employeur qui est l'État, et il y en a d'autres qui ont 200 dollars, d'autres encore 50, 20. Donc en fait, normalement, il doit y avoir un seuil où on respecte les droits humains, où chaque personne qui travaille doit avoir droit à la nourriture, au logement, aux soins de santé, à l'éducation de ses enfants. Ce sont des questions de sécurité pour la personne humaine. Alors, il faut que ces questions-là soient absolument prises en compte par l'employeur, par le pouvoir public, pour que, même s'il y en a qui vont manger, par exemple, qui peuvent se permettre de manger le caviar, il faut que d'autres aient accès à l'emploi de tous les jours. Donc, en fait, ce sont ces questions-là de justice humaine qui font, en fait, que la population puisse être calme et que les choses se développent plus vite dans une société.
Alors, on va revenir à vous, à Mme Baïdina, pour vous poser une question aussi pertinente, ce que peuvent faire les grévistes lorsque l'autorité use de la violence. On va d'abord suivre la conclusion de Marcel Calou.
Merci, Gérard.
La grève est une manifestation des employés pour exprimer leur ras-le-bol aux souffrances et frustrations qu'ils ont endurées après une longue période. En manifestant, les grévistes veulent voir une solution à leurs problèmes, sans quoi le travail ne peut être repris. Le mouvement de grève constitue pour les manifestants un moment de défoulement, de catharsis, d'apaisement de la colère, de la frustration d'une longue période. Ce soulagement vient du fait que leur problème est connu de tout le monde et que la mauvaise foi de l'employeur à pouvoir améliorer leurs conditions de vie est connue de tous. La grève n'est pas seulement économique. Dans d'autres cas, elle reste une affaire de conscience. Des gens peuvent être bien payés, mais si l'employeur ne les met pas dans des conditions sociales respectables, de dignité humaine, ces derniers peuvent finir par se révolter. C'est ce qui a été observé pendant la colonisation. L'élite intellectuelle était bien payée, mais avec moins de considération de la part des colons. Elle a fini par se soulever pour réclamer un traitement humain acceptable et par la suite l'indépendance. Des autorités mises en cause par des grévistes se sentent diminuées, déshonorées et discréditées. Le Parlement de la RDC avait décidé que les syndicats de l'enseignement soient associés à l'élaboration du budget pour avoir une idée sur les ressources que le gouvernement est en mesure de mobiliser et le pourcentage qui peut être affecté à leur secteur. Lorsque les deux parties communiquent, dialoguent, discutent, échangent sincèrement et que l'employeur met en exécution les décisions issues des discussions, il est moins probable que la grève survienne et que des employés aillent ternir l'image de leur institution dans la rue.
Merci Marcel Kekou. Madame Baïdina, que peuvent faire les grévistes lorsque l'autorité use de la violence?
Lorsque l'autorité use de la violence, les grévistes de leur côté ne doivent pas baisser les bras. En fait, comme j'ai dit, les mouvements là généralement se font à deux mouvements. Pendant que les gens sont dans la rue dans les cas de grève, parce que les grèves, on peut les manifester de plusieurs manières. On peut rester à la maison, on dit on ne vient pas travailler, on reste à la maison. Comme également on peut dire, ben on descend dans la rue, on fait des mouvements de marche non violente, ainsi de suite. Et quand toujours l'employeur en fait ne tend pas l'oreille aux revendications des grévistes, les grévistes ne peuvent pas baisser les bras en réalité, parce qu'ils savent pourquoi ils revendiquent, et ces revendications-là doivent venir à bout. Alors il faut absolument, comme j'ai dit, il faut avoir des bons négociateurs, et il faut parfois obliger l'employeur à écouter. On n'a pas besoin d'être violent. En fait, en même temps, parce que quand les gens font la grève, même l'employeur est lésé, parce que le travail ne se fait pas convenablement, il y a des pertes, donc il faut pouvoir écouter, et l'écoute active, encore une fois, c'est une éducation. Il faut savoir écouter les revendications de ceux qui travaillent pour vous.
Donc répondre par une violence, c'est une mauvaise démarche.
Répondre par une violence, c'est une mauvaise démarche. Mais généralement, ce sont des mouvements, en fait, qui dégénèrent parce que c'est encore une foule. Parfois, c'est difficile de contrôler. Mais la foule, là, est contrôlable parce qu'ils ont des leaders. On sait l'identifier. On sait que ce sont des enseignants, par exemple, de telle école qui ont des syndicalistes qui sont leurs leaders, qui écoutent, en fait, ces personnes, qui écoutent le mot d'ordre des personnes qui les encadrent. Mais il faut également, du côté de ces gens-là, qu'on sente qu'il y a une volonté de pouvoir arranger les choses. Il faut parler, il faut communiquer, comme vient de le dire Marcel, discuter, échanger sincèrement. Et il est moins probable que la grève survienne quand les employés peuvent en fait aller de l'avant, comme on venait de le dire, savoir prévenir les choses, parce que diriger, c'est prévoir.
Donc, on retient que les syndicalistes ont un rôle très important à jouer.
Très important à jouer. Dans une société, dans une entreprise, dans une institution, quand il n'y a pas une structure de syndicat, c'est un problème, parce qu'en fait, les gens sont matés. C'est une dictature. Il faut absolument, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'argent, il s'agit également des conditions de travail. Il faut que les gens travaillent dans des bonnes conditions, des conditions qui peuvent leur permettre en fait de se développer, de s'épanouir en tant que personne humaine. N'oublions pas que le travail ennoblit l'homme.
Voilà, Madame Baïdina Espérance, vous êtes docteur en communication et professeur à l'IFASIC. Vous avez vous nous avez honoré aujourd'hui de ce sujet sur le certain moyen de pression qui peuvent contribuer à la résolution des conflits entre groupes. C'est par ici que nous mettons un terme à cette chronique d'Anne Roletia avec vous. Et également, on est terme à notre émission d'aujourd'hui, Nicole Gata.
Tout à fait, bien
sûr. Pour autant, dire merci à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés depuis 9h et également à tous les journalistes et reporters qui ont contribué à la réalisation de cette émission, notamment Richard Junior Kamunga, Tati Mapoukou, Béry Franklin Luchaka, Esther Ndalafina, Goodlive Omondo et Jolilor Mbali Voto. On prend rendez-vous pour demain.
Tout à fait, mais nous n'oublions pas ceux qui nous ont assistés techniquement parlant. Et là, il y avait Alain Goy, à la réalisation Nathalie Mouteba, sous la coordination de Nuno Goy et de Marcel Ngombo-Mala. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain à la même heure, c'est-à-dire de 9h à 12h, heure de Kinshasa. Dans un instant, vous allez suivre le point de l'actualité à la présentation de Linda Bosuma. Et puis juste après, rendez-vous avec toute l'équipe de Capimama. Et cette fois-là, vous retrouverez Françoise Mokoko. Encore une fois, merci et à demain.